Bienvenue sur Just a Click, le podcast français du product management. Ici, on parle de tech, de design et de business. Je suis Thierry Michel et j'accueille chaque semaine des leaders du monde du digital. Ici, vous trouverez des retours d'expérience, des conseils et apprentissages concrets pour progresser en product management. On dit que seul, on va vite, mais sur Just a Click, on prend le temps ensemble d'aller loin. Salut Zaliata.
Salut Thierry.
Merci de prendre du temps aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier par rapport à ceux que j'ai pu faire dans le passé sur le podcast et que je vais faire aussi évidemment dans le futur. Là, on va faire un épisode très axé sur plus du développement personnel, du retour d'expérience, mais dans le monde de la tech, au travers de ton parcours à toi, puisqu'on sait que le monde de la tech, c'est un monde dans lequel les choses évoluent très vite. Et du coup, parfois, d'un point de vue professionnel, ça peut être un peu compliqué de savoir comment naviguer dans ce milieu-là. Et toi, tu as un parcours que je trouve hyper riche, hyper intéressant, parce que tu viens de la tech, ensuite tu es sorti de la tech, tu es revenu dans la tech. Donc tu vas nous partager tout ça, les apprentissages, pour que ça puisse aussi, on l'espère, éclairer d'autres personnes qui pourraient se poser des questions dans cet écosystème. Et avant du coup de rentrer dans le vif du sujet, je te propose tout d'abord de te présenter.
Ça marche. Je suis Zaliata, Amada Lafeuille, puisque je suis mariée depuis 5 ans. Je suis française, je suis née en banlieue parisienne et j'ai un parcours qu'on a qualifié longtemps d'atypique, mais maintenant les gens le qualifient un peu moins d'atypique parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont des parcours divers et variés, surtout dans la tech. Donc j'ai pas vraiment commencé dans la tech, en fait j'ai commencé dans les métiers du service. D'abord à Disneyland Paris pendant assez longtemps, en intérim et puis après en CDD, le soir et le week-end. J'ai beaucoup aimé les métiers du service parce que j'aime bien rendre service aux gens, j'aimais bien aussi cet endroit, le lieu en lui-même, le fait d'être en backstage, les déguisements, les enfants, etc. Tout ça, ça me plaisait beaucoup. Mais c'est pas forcément une carrière qu'on peut faire. Donc j'ai arrêté mes études assez tôt, juste après le bac. En fait, j'ai entamé des études à la fac et puis après j'ai décidé d'entrer dans le monde du travail parce que je pensais avoir besoin d'argent et d'indépendance. Et donc j'ai travaillé à Disneyland Paris quelques temps. Puis après, je suis rentrée dans le groupe Yves Rocher. Et là, c'était pas non plus de la tech, mais c'est assez intéressant parce que en fait, finalement, c'est une expérience assez fondamentale pour moi parce que c'était un call center. Alors, j'avais fait d'autres choses avant. J'avais fait d'autres call centers et puis des enquêtes par téléphone. Enfin, voilà, des choses qui me font sourire un peu parce qu'il y avait des choses des fois un peu farfelues, mais c'était intéressant. Et ce qui est intéressant avec cette expérience chez Yves Rocher, ou plutôt chez Dr Pierre Rico, qui est une filiale d'Yves Rocher, c'est que c'était déjà assez moderne en termes de modalité de travail. Donc, c'est-à-dire que j'avais des collègues qui travaillaient en télétravail, puisqu'on servait la France, la Belgique, la Suisse, donc il y avait des gens qui parlaient français, anglais, allemand. Moi, je parlais très rarement allemand, même si j'ai étudié l'allemand, mais j'étais pas assez bonne pour ça. Donc il y avait des personnes en télétravail et on avait aussi ce qu'on appelait l'annualisation du temps de travail. Donc des fois, je travaillais 20 heures et puis des fois, je travaillais 42 heures. Et donc, j'étais déjà sur un mode de travail finalement qui me correspond assez bien. Quelque chose qui te permet de t'adapter et qui est assez mouvant. Et donc maintenant que j'y pense, en fait, quand on pense en termes de développement professionnel, je pense que c'est quelque chose d'assez fondamental dans la façon dont je vois mon développement professionnel, parce que moi, j'ai toujours eu besoin de flexibilité. Et c'est vrai que cette première expérience qui a duré 2 ans, ça me donnait déjà pas mal de flexibilité, en fait. Donc j'ai appris plein de choses aussi à vendre, alors que je me maquillais pas du tout à l'époque. Donc c'était vraiment vendre un produit, aider les gens et des méthodes, on va dire, par rapport à ça. Et puis des outils aussi. Donc j'ai toujours aimé apprendre à utiliser de nouveaux outils. Et c'est là que j'ai commencé donc à utiliser ces outils de CRM, on va dire, hein, et puis à devenir assez forte là-dedans. Donc quand on sort après le bac et qu'on travaille tout de suite, en fait, on ne sait pas dans quoi on est bon. Moi, je savais que je savais très bien parler anglais, que j'aimais les langues, que j'aimais les gens, que j'aimais le service. Mais avant ça, je ne savais pas que j'aimais les outils. Donc c'est là où j'ai commencé en fait à travailler avec les outils. Et puis au bout de 2 ans, j'ai eu envie d'évoluer. Il n'y avait pas non plus beaucoup de perspectives d'évolution pour moi, donc sans diplôme. Et donc j'ai voulu rentrer chez France Télécom à l'époque. J'ai eu la chance de pouvoir rentrer chez France Télécom. Très contente de cette expérience qui a duré quasiment 20 ans, même s'il y a eu une pause dedans. Enfin 21 ans avec... une pause dedans.
Bon, donc là, c'est quelle année à peu près où alors, tu rentres chez...
Je suis rentrée chez France Télécom en 2000, donc en mars 2000. Et en fait, j'ai commencé par faire de l'administration des ventes, avec toujours un côté outil assez fort, puisqu'on vendait des accès à DSL à l'époque. C'était une sorte de start-up dans... qui avait été racheté par France Télécom et qui était absorbé par Transpac. Donc Transpac, c'est ceux qui ont inventé le Minitel. Voilà. Et donc c'était déjà aussi un choc de culture, c'est-à-dire que j'étais dans une entreprise, je venais de rentrer, mais on faisait des horaires pas possibles, on s'adaptait à tout, les clients pouvaient nous demander ce qu'ils voulaient, on s'adaptait à tout. On était une équipe très petite pour servir beaucoup de clients, puisqu'il y a eu l'explosion d'Internet. Et donc un rythme effréné. Et en fait, en rentrant dans cette organisation qui était Transpac, qui était beaucoup plus structurée, beaucoup plus processée, ça m'a appris aussi à travailler d'une autre manière, donc à intégrer des process, à utiliser beaucoup d'outils, puisque à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque et pendant longtemps, France Télécom Orange, c'était le premier SI de France, parce qu'en fait, en interne, il y a énormément d'applications. Et assez rapidement aussi dans ce poste-là, je suis devenue formatrice, donc aussi bien sur les outils que sur les process, donc les process d'administration des ventes, de gestion des réclamations, etc. Donc des belles expériences parce qu'en fait, notre équipe étant toute petite, on a dû déployer ou décentraliser notre activité dans toute la France, donc dans les agences entreprises France Télécom. Et donc ça m'a permis de commencer déjà à voyager, à former des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Donc ça, c'était aussi quelque chose qui m'a construite. Et puis la formation, ça revient aussi dans ma carrière. Et puis donc, j'ai fait ça pendant quelques années. Mais ce qui me manquait, c'était le côté international. Donc, j'avais toujours cette passion de l'anglais. J'avais repris mes études par correspondance pour faire une licence d'anglais. Et donc, je voulais absolument un poste où je pouvais parler anglais. Donc, j'ai décidé de changer en interne. Et c'est ça aussi la force d'Orange France Télécom. C'est que c'était une entreprise où il y avait beaucoup de fonctionnaires. Donc, ils étaient un peu obligés de s'adapter, puisqu'on ne pouvait pas virer les gens. Donc, il fallait bien les faire évoluer avec les technologies qui évoluaient. Et je pense que c'est aussi une des choses qui a fait que je suis rentrée dans ce groupe-là, parce que il y a vraiment des perspectives d'évolution, des façons de se former en interne, beaucoup de formations, soit par des collègues, soit par... il y a des équipes formation en interne qui construisent des parcours. Et ces parcours-là, en fait, peuvent être faits avec des grandes écoles, avec un certain nombre de partenaires, on va dire. Et donc, c'est des formations qui sont en général assez structurées et solides. Donc, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Voilà, des choses comme la voix sur IP, comment fonctionne l'Internet ou l'intranet des entreprises. Voilà, tout ce qui est structure, en fait. J'ai pu apprendre tout ça grâce à Orange. Et aujourd'hui, je pense que c'est des choses qui me... pareil, ça, c'est des choses que je n'ai pas apprises à l'école, mais ça m'a permis de me rendre compte que j'aimais bien la tech. Que ce n'était pas seulement le fait d'aller chez France Télécom parce qu'il y avait une ouverture possible sur une carrière, mais aussi parce que c'était une entreprise qui... c'est une entreprise où il y a beaucoup d'ingénieurs et il y a beaucoup d'innovation, en fait. Donc c'est aussi quelque chose qui m'a construite. Voilà. Donc j'ai continué ensuite chez France Télécom, donc côté International Carriers. Donc International Carriers, en fait, c'est les personnes qui s'occupent de tous les réseaux internationaux qu'il y a sur la voie ou le mobile. Donc c'est vraiment des choses très structurelles, hein. C'est les canaux souterrains, sous-marins, etc., etc. Pareil, ça m'a beaucoup intéressé le sujet. Donc moi, je travaillais en tant qu'analyste achat, un métier que je connaissais pas, encore une fois. Donc j'ai pu apprendre ce métier sur le tas. Et là, j'ai commencé à toucher à des... Donc moi, j'appelle ça un peu du code, mais voilà. En tout cas, c'est pour moi, c'est la première fois où j'ai commencé à toucher un peu à du code, puisque en fait, c'était du trading et il fallait analyser les tarifs tout le temps. Ça changeait tout le temps. Et donc, j'ai commencé à mettre en place des macros sur des fichiers Excel. Et finalement, les macros, c'est du code. donc voilà, donc j'ai commencé à faire ça en autodidacte. vraiment au début. Et puis après, j'ai eu droit à une formation en interne. Donc après avoir bataillé pour dire j'en ai besoin, c'est vraiment important. Et donc petit à petit, j'ai pu devenir super utilisatrice des outils internes, développer des macros pour automatiser un certain nombre de choses. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ce qui me plaisait moins dans ce poste-là, c'est qu'il y avait peu de contacts avec des humains, donc beaucoup de mails, beaucoup de choses à l'écrit. J'avais une équipe avec moi, mais j'étais la seule à faire ce que je faisais. C'est souvent le cas d'ailleurs dans ma carrière. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui me manquait, d'avoir ce contact avec les gens et d'apprendre avec les gens, de pas être juste en recherche toute seule. Donc voilà. Mais je pense qu'on va y revenir après quand on parlera de développement de carrière. Donc j'ai fait ça pendant 4 ans et puis j'ai pu être recrutée par une autre équipe, donc une équipe formation. Donc là je suis devenue chef de projet formation, mais en fait je faisais aussi de l'ingénierie pédagogique. Donc j'ai construit des supports de formation sur un sujet qui n'avait toujours rien à voir, encore une fois. C'était en fait la gestion financière des projets opérationnel. Donc j'ai formé plein de gens, cette fois à l'international, donc ça m'a permis de voyager en France, en Europe et aux États-Unis. Donc j'ai fait mes premières formations en anglais. C'était vraiment très chouette parce que pour moi c'était un peu les deux mondes qui se rejoignaient, donc le monde où j'aimais beaucoup la langue, j'aimais bien, beaucoup la culture, et je pouvais enfin être plongée dans la culture mais au niveau professionnel, et puis en même temps tout ce que je pouvais apprendre chez Orange, de pouvoir l'enseigner à d'autres personnes. Donc ça me convenait assez bien. Puis j'ai eu entre-temps j'ai eu plein d'enfants, donc je donne pas des dates, mais j'ai eu des enfants. Et souvent ce qui se passait après les grossesses, c'est que j'avais envie de changer. En fait, les grossesses, ce que ça a fait pour moi, c'est que c'est toujours une recherche de sens et d'aller plus vers des choses qui me correspondent, ou d'aller un peu plus vers mes aspirations. Et donc après ma troisième grossesse, je pense, je suis devenue manager de programme partenaire. Donc là, c'est un métier avec beaucoup de management transverse. Je m'occupais des certifications Cisco et Microsoft pour le monde entier, pour Orange Business Service. Donc moi, j'étais toujours en B2B. J'aime bien tout ce qui est un peu complexe, donc ça me convenait bien en B2B. Et donc là, le rôle, c'était vraiment comprendre des pavés de 1000 pages de Cisco qui expliquaient des caractéristiques techniques, des formations, enfin tout un tas de choses. Et puis après, aller accompagner les équipes pour qu'elles fassent les bonnes formations, préparer les audits, être là pendant les audits pour s'assurer que tout se passe bien. Et puis il y avait aussi une partie gestion financière, puisqu'en fait ces certifications, elles donnaient droit à des remises. Donc je gérais aussi tout ce qui était redistribution des remises aux bonnes unités d'affaires, etc., etc. Donc c'était un poste avec pas mal de responsabilités. J'ai beaucoup appris, notamment avec ma manager de l'époque, Lucie Armillon, qui était vraiment quelqu'un de génial et qui me voyait là où moi je me voyais pas forcément. C'est-à-dire que je pense que moi j'ai toujours aimé le côté opérationnel, et en fait elle a commencé à m'ouvrir à des choses stratégiques, puisqu'en fait sur des métiers comme ça où on est censé maintenir quelque chose qui est essentiel pour le business de l'entreprise, mais c'est pas forcément quelque chose que les gens vont utiliser tous les jours. Donc il faut faire de la stratégie tout le temps pour que les gens puissent comprendre pourquoi il faut faire ça. Il faut coordonner plusieurs pays qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Il faut s'assurer que tout le monde récupère son argent à la fin. Enfin, bon, voilà. Donc il y avait tout le temps de la stratégie et de la politique. Et c'est vrai que Lucie, pour ça, c'est quelqu'un qui m'a vraiment poussé à prendre cette place, et puis qui m'a reconnue aussi pour ça. Et donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je suis hyper reconnaissante, en fait, parce que ça, c'est la première fois que j'ai eu vraiment un manager qui m'a porté et qui m'a vu plus loin que ce que moi je me voyais. Et puis suite à ça, mon père est décédé, et donc j'ai eu encore une remise en question de qu'est-ce que je veux faire, où vais-je, qui suis-je, et donc je me suis dit, en fait, tu fais un métier super, t'as atteint quelque chose dont tu rêvais. Donc moi je suis issue d'une famille...
T'avais quel âge là, à
j'avais
ce moment-là, à peu près?
30 ans, okay. Oui, j'avais 30 ans, un peu, oui c'est ça, 30 ans, et en fait... Je pense que depuis petite, je me voyais en businesswoman, un peu aller dans des aéroports avec mon ordinateur, etc., etc., avec mes talons qui claquent, etc. Et j'avais un peu atteint ce truc-là, avec des responsabilités, avec manager dans mon titre. Et pour moi, vu que je suis rentrée sur le monde du travail sans diplôme, c'est vrai que c'était un peu waouh, j'ai atteint ce truc-là. Et en même temps, une fois qu'on l'a atteint, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, à quoi ça sert ? Voilà, donc il y avait un côté aussi un peu artificiel justement à faire ces sorties d'argent, ces rentrées d'argent, mais finalement à somme zéro, plus ou moins. Donc il y avait quelque chose chez moi qui avait besoin de plus de sens. Et donc j'ai décidé de passer le CAPES. Donc j'étais toujours passionnée d'anglais. Donc pour moi, en fait, être professeur d'anglais, c'était un peu le métier que j'imaginais faire à 50 ans. C'est pas ce qui s'est passé. Donc je l'ai fait beaucoup plus tôt, pendant 4 ans. Donc j'ai été professeur d'anglais en lycée. J'ai adoré ça. Je me suis sentie à ma place tout de suite devant le tableau blanc. C'était chez moi. Voilà. Et en même temps...
Combien de temps, du coup, pour avoir le CAPES ?
Alors, en fait, ça s'est fait très vite parce que ça faisait plusieurs années que je m'inscrivais au CAPES en me disant « tu vas le faire, tu vas le passer, tu vas voir ce que ça donne », mais que j'y allais pas. Et puis, en fait, cette année-là, il y a eu 2 concours. Je me suis dit « bon, allez, vas-y, tu verras bien ce que ça donne ». Et en fait, je l'ai eu. Par chance, je suis tombée sur un sujet que j'avais étudié à la fac et qui était encore frais dans mon esprit. Merci Salman Rushdie, parce que c'était un livre de Salman Rushdie, qui est génial d'ailleurs, qui s'appelle Midnight Children. Et c'était facile, quoi. Enfin, voilà. Et donc, j'ai eu les écrits et après, j'ai pu enchaîner sur une année à temps partiel. Donc, j'ai fait 80% d'Orange, 20% d'Éducation nationale. J'ai passé les oraux à la fin de cette année-là. Et j'ai eu le concours, voilà. Donc après, j'ai enchaîné sur 3 ans à l'Éducation nationale à plein temps. Voilà. Donc passionnant, franchement, vraiment, où je me suis dit, bon, la formation, l'éducation, c'est ma vocation, vraiment. Super à l'aise aussi parce que j'avais l'impression de redonner ce qui m'avait été donné à moi. À des élèves qui me ressemblaient beaucoup. J'ai enseigné à Clichy-sous-Bois, donc qui venaient du même milieu social que moi. Je suis parent plutôt de gens qui venaient de colonies, mais parents d'immigrés, on va dire, même si c'est pas exactement la même chose, mais des gens qui ont des accents, qui peuvent pas forcément, qui misent tout sur leurs enfants, mais qui peuvent pas forcément les soutenir dans les matières, mais qui sont super soutenants pour les profs, parce que, enfin voilà. Donc un environnement dans lequel j'étais vraiment à l'aise, et puis plein de beaux projets. Donc j'ai emmené mes élèves à Londres, à Orange Business Service, donc toujours pareil, mélanger les différents mondes dans lesquels j'évolue. J'ai fait du théâtre en anglais, je me suis formée au théâtre en anglais, donc ça c'était vraiment aussi très chouette. Et voilà. Et puis en fait, au bout de 4 ans, j'avais l'impression d'être un peu dans un confort. C'est aussi quelque chose qui revient beaucoup dans ma carrière. Dès que je commence à maîtriser un peu, il y a un truc dans mon cerveau qui me dit « qu'est-ce que tu vas faire après ?» Donc pour moi, c'est un peu difficile de rester à une place. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai dansé. Parce que la danse, c'est un truc qui me permet des fois d'exprimer des choses que mon cerveau ne va pas forcément exprimer. Et puis, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas faire ça toute ma vie. En tout cas, j'avais peur aussi d'être la prof blasée, qui a plus d'énergie, parce que c'est vrai que monter des projets, c'est une énergie folle. Parce que j'ai fait des projets, mais j'ai aussi participé à des projets. Je suis partie à Berlin avec une prof d'allemand. Voilà, j'ai fait des échanges, fait un tas de choses avec mes collègues, qui sont super d'ailleurs. Je lance une dédicace. Parce qu'on les, on reconnaît pas assez le travail que ça représente. On sait pas, en fait, quand on n'est pas dedans. Et donc, je me suis dit, je pourrais pas faire ça toute ma vie. J'ai peur de pas être assez motivée et de pas apporter ce que je veux vraiment apporter aux élèves. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je me suis retournée vers Orange en disant, avec ce que j'ai fait dans ma carrière, tous ces postes différents, qu'est-ce que je peux faire? Et ils m'ont dit, il y a des nouveaux métiers, là, CX, UX, il y a un poste de coach. La RH m'a dit, je pense que ça pourrait bien te convenir. Effectivement, ça m'a bien correspondu. Parce que, en fait, toute ma carrière, j'ai travaillé avec des ingénieurs ou des personnes qui avaient des idées et qui faisaient tout pour les mettre en œuvre et pour les soumettre aux clients ou aux utilisateurs. Et le fait de me dire, on va d'abord demander aux gens ce qu'ils veulent et puis ensuite, on va essayer de construire ce dont ils ont besoin, on va les observer, etc. Ça m'a parlé. Et puis là, j'ai retrouvé aussi un sens à ce que je faisais. Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi. Et donc, je me suis passionnée pour l'UX tout de suite, d'abord en faisant des formations en interne, puis après, au bout de 2 ans, après beaucoup de pratiques, puisque j'étais hyper active, j'ai fait, dans les 4 ans où j'étais chez Orange, j'ai fait 50 de projets, donc des projets les plus stratégiques de transformation, etc., jusqu'aux petits projets sur des petits portails où on testait juste des nomenclatures, etc. Donc vraiment toutes les tailles de projets, digital, non-digital, service, enfin, terrain de jeu extraordinaire pour apprendre. Et au bout de 2 ans, j'ai décidé de repasser un diplôme. Donc j'ai obtenu la certification UX des Gobelins. Voilà, donc très intéressant. Ça m'a permis aussi d'accéder à un réseau que j'ai ensuite encore développé en faisant la formation Design Sprint du laptop. Et donc, voilà, donc j'ai continué mon petit bonhomme de chemin. J'ai fait des projets de plus en plus intéressants. J'ai monté des formations en interne, puisque je garde toujours cette casquette formation, notamment avec le laptop. On a fait une formation sur mesure sur le Design Sprint. Et puis après, au bout de 4 ans, Covid, je me suis rendu compte que j'avais de l'intérêt, mais que j'avais envie d'aller voir ailleurs. C'était déjà une envie que j'avais eue avant, que j'avais jamais concrétisée. Et puis, j'avais aussi envie d'aller travailler à l'étranger. Donc, c'est un projet que j'avais depuis, je pense, une vingtaine d'années avec mon conjoint. Les enfants sont arrivés. Ma maman avait un grave handicap, donc elle vivait avec nous. Donc, on s'est occupé d'elle pendant une dizaine d'années. Donc, ça a fait qu'on n'a pas pu faire le projet au moment où on aurait voulu le faire. Et puis là, on arrivait un peu au bout d'un cycle et on s'est dit... si on veut partir à l'étranger, c'est maintenant. Donc, j'en ai parlé avec mon manager de l'époque. Il m'a dit, OK, tu vas pouvoir partir à Londres et tout. Et puis, finalement, Brexit, Covid, galère sur galère. Donc, ça ne s'est pas fait. Ça a été assez lent aussi au niveau RH. Et là, donc, au mois d'avril 2020, je crois, 2021, je vois l'annonce pour DesignOps chez Payfit. Donc, j'avais rencontré Léa Mendes à travers le cercle Hexagone UX qui promeut les femmes et les personnes non-binaires dans l'UX. Et donc, quand je vois qu'elle poste cette offre, je regarde la fiche et je me dis c'est moi. Il y a des outils, il y a de la formation, il y a de la stratégie, il y a de l'accompagnement des gens. Il y a tout, en fait, tout ce que j'aime bien. Et donc, je la contacte, je dis, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que je postule? Elle me dit, postule. Et puis, voilà. Donc, j'ai eu le poste chez Payfit. J'ai créé donc la fonction DesignOps chez Payfit. J'ai recruté une petite équipe, donc avec Damien Boyer, qui a récupéré le poste maintenant, et puis une petite équipe de product designers volants qui pouvaient intervenir sur différents projets dans différentes tribes. Voilà, donc ça a été une très belle expérience pendant un peu plus d'un an. Payfit, c'est vraiment que des gens bien. Donc, c'était vraiment le bonheur de travailler avec cette équipe-là. Donc finalement, au lieu de partir à Londres avec mon conjoint, comme on avait la possibilité, on a décidé de partir en Espagne. Et donc, on est parti à Barcelone en 2022. Et en partant, j'ai été débauchée par Glovo. Donc Glovo, qui est l'équivalent du Deliveroo espagnol. Assez grosse entreprise, plus gros que Payfit, qui opère dans 27 pays, mais beaucoup en Afrique et en Europe de l'Est, et en Europe du Sud aussi. Et donc, j'ai décidé d'accepter parce que c'était un beau défi. J'avais jamais travaillé en B2C. Il y avait une équipe de 80 personnes à l'époque, donc ça me semblait être intéressant d'aller créer la fonction DesignOps là-bas. Et donc j'ai travaillé là-bas pendant un an, j'ai appris plein de choses, et puis au bout d'un peu plus d'un an, ça me trottait déjà dans la tête avant, mais parce que je suis pas super alignée avec le produit, les valeurs du produit, etc. C'est vrai qu'en arrivant, je me suis dit, on va changer des choses, on va faire design de service, on va améliorer la vie des livreurs, etc. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était complexe et que j'étais pas sûre que c'était mon combat non plus. Donc j'ai quitté Glovo au mois de novembre dernier, et depuis je suis en freelance. Donc je fais surtout de la formation, et j'ai pour projet de monter en fait des formations avec de l'accompagnement. Donc je commence déjà à faire ça, mais ce que je voudrais en fait, c'est que je sois pas seulement là pour emmener des gens vers l'acquisition d'une compétence, mais aussi pour les accompagner dans la mise en place. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de formations en interne et puis d'accompagnement avec des consultants, etc. Puis des fois, une fois qu'ils s'en vont, on ne sait plus comment faire. Ils ont fait plein de choses, ils ont développé plein d'outils, mais on n'a pas forcément les clés. Et donc moi, par rapport à tout ce que j'ai appris, que ce soit en design ops, en stratégie UX ou même en management, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est accompagner des équipes et puis les former et leur permettre vraiment de les accompagner sur l'acquisition et la mise en place de ces compétences. Voilà, c'était un peu long.
Très clair. je t'ai volontairement laissé présenter, comme on avait parlé aussi en off, parce que c'est le but de cet épisode qui est un peu atypique par rapport aux autres que j'ai sur le podcast. C'est un épisode vraiment de retour d'expérience, de montrer aussi que du coup, les parcours non linéaires peuvent aussi mener à des super expériences, des super postes. Là, tu as cité des boîtes qui aujourd'hui, dans le milieu de la French Tech, par exemple Payfit, ça fait partie des boîtes qui font rêver. Tu as cité un parcours super intéressant au sein d'Orange, où tu as vraiment gravi les échelons un à un. Et tout ça avec vraiment une approche entrepreneuriale, j'ai envie de dire aussi, par rapport à ta carrière professionnelle. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Du coup, maintenant sur cette deuxième partie d'échange, j'aimerais bien qu'on essaie de tirer de tout ça un peu, tu vois. Si tu devais reparler toi à la Zaliata d'il y a 20 ans, s'il y avait des conseils que tu lui donnerais à différents moments, les choses que tu as apprises maintenant avec le recul, toute l'expérience que tu as accumulée, en regardant un peu derrière, s'il y a des choses que tu ferais différemment ou des clés que tu pourrais donner à des personnes qui sont dans des situations similaires ou à des étapes un peu similaires que toi tu aurais pu déjà vivre. Donc peut-être, je me dis, on pourrait prendre différents moments charnières, tu vois, dans ta carrière et revenir dessus en se disant ça s'est passé de cette manière, mais si je devais le refaire, je referais ça exactement de la même manière versus ça, je le ferais un petit peu différemment. Je sais pas ce que tu en penses de prendre un peu le sujet comme ça, tu vois, de revenir un peu sur les différents moments clés en fait de ta carrière et les retours d'expérience du coup que tu peux partager dessus de manière très actionnable pour des personnes qui seraient aujourd'hui plus ou moins des moments similaires dans leur carrière.
Super intéressant comme approche. Alors je pense que je parlerai d'abord à la Zaliata d'il y a presque 30 ans qui a décidé d'arrêter ses études. Moi j'ai toujours aimé apprendre, je le savais déjà à l'époque. Mais je me suis laissée. Je me suis laissée croire que c'était important d'être indépendante financièrement, etc. Et puis, je pense que je n'ai pas été assez accompagnée par. Pourtant, j'ai été au centre d'orientation, au CIO, etc. J'ai fait plein de choses. Mais je pense que je n'ai pas été assez accompagnée sur. Les possibilités de l'alternance, etc. Donc, c'est des choses qui, je pense, m'auraient plu beaucoup, parce que c'est bien d'apprendre sur le tas, mais c'est aussi bien d'avoir des formations, parce que c'est rencontrer les professeurs, parfois rencontrer les professionnels. Je le vois aujourd'hui parce que j'enseigne dans plusieurs écoles, des grandes écoles. Je ne savais même pas que ça existait à l'époque. J'ai su vraiment quand j'avais 25-30 ans, quoi. J'entendais les noms, mais je ne savais pas ce que c'était, en fait. Et donc ça, je pense que la Zaliata de l'époque, je lui dirais fais des études, en fait, c'est cool les études, et tu vas kiffer. Donc parce que du coup j'y suis revenue plusieurs fois parce que c'est vraiment quelque chose qui me nourrit. Donc donc je pense que si je devais faire différemment, je ferais ça, et aussi de pas se brider sur ce qu'on veut apprendre. Alors moi j'ai décidé de faire j'ai un bac littéraire que j'ai eu parce que on m'a poussé en me disant oh, t'es bonne en anglais, t'es bonne en français, t'es bonne dans les langues, dans les matières littéraires, fais ça. Mais en fait moi j'ai toujours été intéressée par l'électrotechnique. Et puis on m'a dissuadée en disant bah non, il y a que des garçons, tout ça. Et puis en fait je me dis de pas se laisser influencer, en fait. Je sais pas à quel point c'est possible quand on a 17-18 ans, mais je pense que si j'avais pu, j'aurais pris peut-être un peu plus de recul et j'aurais fait des études qui vraiment m'intéressaient. Donc je pense que déjà à ce moment-là, il y avait quelque chose, il y aurait eu quelque chose de différent à faire. Voilà.
Hyper, hyper intéressant. Du coup, ensuite, tu mettrais où la prochaine étape pour toi où il y aurait des choses à apprendre ou même des choses qui se sont très bien passées, hein. Ça peut être aussi, tu vois, tu dis bah là, la bascule, c'est super bien faite, franchement, parce que si, ça.
Alors, je pense que. Je pense que j'ai toujours été quand même assez courageuse, ou enfin courageuse oui, mais ce que je veux dire c'est audacieuse, c'est-à-dire que j'ai quand même osé postuler à des postes où j'étais pas tout à fait sûre, mais il fallait quand même que j'ai 90% des compétences. Donc je pense que par rapport à ça, il y a eu des moments dans ma carrière où il y avait des opportunités que j'aurais pu prendre, partir à l'étranger, je pense que à la Zaliata de 25-30 ans, jeune maman qui a vraiment envie de partir à l'étranger mais qui state, je pense que je lui aurais dit postule partout. n'aie pas peur de prendre des risques, parce que je pense que vraiment à ce moment-là j'avais déjà pas mal de responsabilités, mais en même temps le risque je l'ai pris avec encore plus de responsabilités. aujourd'hui. Donc je pense que voilà, la Zaliata de 25-30 ans, là, qui était dans cette période où on fait beaucoup de choses, en fait. Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai rénové des maisons. J'avais une vie perso très remplie. Mais je pense que, pareil, j'ai laissé des fois des choses qui n'étaient pas forcément alignées avec ce que je voulais faire, prendre de la place ou prendre des espaces que j'avais laissés vides parce que j'osais pas assez. Donc, oser vraiment postuler là où je voulais postuler, partir voilà, avec mes enfants sous le bras et puis prendre ces risques. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que vraiment, les risques sont complètement relatifs. Là, quand j'ai quitté Glovo ou même quand j'ai quitté Payfit, bah en fait, oui, c'est un risque, mais en même temps, je me dis, c'est aussi le risque d'avoir des choses encore mieux derrière ou plus alignées avec qui je suis. Et puis, si ça se passe pas bien, en vérité, j'ai tellement d'expérience et de compétences, bah, y a toujours quelque chose à faire. Et finalement, même à 25 ans, j'avais déjà fait assez de choses pour pouvoir avoir confiance et prendre ces risques-là. Donc je pense que je lui dirais ça, puisque à ce moment-là, en fait, je pense que j'ai pris des petits risques. J'aurais pu prendre des plus gros risques. Voilà, c'est ce que je dirais.
Hyper, hyper intéressant. C'est vrai que quand on a atteint ce niveau, quand tu as déjà voilà, que t'as assis une première légitimité dans ce que tu fais, que tu as gagné confiance en toi, et qu'on a la chance de vivre dans des pays qui sont pas en guerre, dans lesquels globalement, si t'as voilà un premier bagage qui te permet de trouver du travail dans des domaines qui te plaisent plus ou moins, tu vas pouvoir y arriver. Même si c'est pas le job idéal, tu pourras retomber toujours sur tes pattes. Je parle bien évidemment de quand t'as commencé, quand t'as déjà gagné en estime de toi, que tu sais que globalement globalement, tu sais faire des choses. Le risque derrière de partir d'un job pour un autre, en soi, le risque, il est plus de ne pas le faire, comme tu le dis. Et donc, il est très, très relatif. Ce n'est pas la même chose que comme quand tu pars d'un pays qui est en guerre, dans lequel tu ne peux plus te nourrir. Ou là, tu risques ta vie. Dans nos démocraties occidentales, globalement, et au contraire, il faut montrer l'exemple, je pense, de le faire, de prendre ces risques-là, parce que justement, si nous, on ne le fait pas, qui d'autre peut le faire, quoi. Parce qu'on fait partie quand même des plus chanceux, je pense, sur la planète de vivre dans les pays dans lesquels on vit. Donc,
Oui, et puis maintenant que je suis partie dans un pays d'Europe, c'est pas facile parce que je suis partie sans parler espagnol. Je l'apprends, mais je suis encore... Poco, hein. voilà, donc je suis pas encore fluente, on va dire. Mais je me rends compte à quel point c'est facilité par rapport à des gens qui sont non-européens. Et l'Europe, c'est grand, en fait. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Je pense que le conseil que je donnerais à quelqu'un qui serait dans cette situation-là, c'est vraiment de tenter d'essayer de partir quelque part. Parce que au-delà même du fait d'avoir la possibilité de le faire, pour moi, ce que je cherchais, c'était vraiment l'enrichissement personnel, avoir cette expérience de vivre dans une autre culture, et puis d'offrir ça à mes enfants aussi. Donc tout le monde n'a pas d'enfants, tout le monde ne veut pas d'enfants, et c'est cool. Mais c'est vrai que je pense que ça donne une vision de la vie différente, une perspective différente. Et moi, je suis hyper contente, même si je pense que des fois, mes enfants, ils en ont marre de nous. Et ils sont contents d'un côté, mais ils ont laissé leurs copains, etc. Ils ont entre 9 et 20 ans, donc tu peux imaginer que c'était pas évident pour des ados de quitter leurs copains et tout. Mais je vois bien ce que ça change chez eux en termes de perception du monde. C'est extraordinaire, quoi. Donc moi, mes parents, finalement, avaient fait ça en partant des Comores pour venir... À l'époque, à la métropole, ils se sont confrontés justement à la différence, au fait de mieux apprendre une langue, parce que ma mère est arrivée, elle ne parlait pas français, par exemple, donc elle a appris le français. Et pour moi, c'est des exemples. Et je vois bien à quel point ils étaient tolérants. C'est quelque chose qui vraiment te construit. Donc pour moi, je pense que c'est ça, prendre des risques, mais notamment le risque de partir à l'étranger.
Hyper, hyper intéressant. Et du coup, après, prochaine étape, là, donc t'es dans les 25-30 ans, là, tu dis aller encore plus fort sur les risques que t'as pu prendre.
Ouais. Alors, il y a une chose que j'ai faite qui était de créer mon auto-entreprise. quand j'étais à l'Éducation nationale, parce que j'ai voulu transmettre tout ce que j'avais appris en entreprise, et j'ai commencé par faire du bénévolat à la mission locale, et puis après petit à petit à faire de l'accompagnement sur l'orientation, et puis petit à petit, une fois que je suis devenue designer, ça a été un peu plus des missions de design et de formation sur le design. Je pense que ce que je dirais à la Zaliata qui a créé son entreprise, c'est de pas y aller à moitié, parce qu'en fait c'était un peu je sais que j'ai un esprit entrepreneurial, mais j'y vais doucement, doucement, quoi. Donc, je pense que si j'avais su ce que je sais aujourd'hui sur les pépinières, tout ce qu'on peut faire en entrepreneuriat en France, à quel point on est aidé, accompagné, je pense que j'aurais pas créé une autre entreprise, j'aurais créé une entreprise directement et j'aurais misé beaucoup plus dessus. Parce que là, c'est vrai que j'ai vraiment fait en mode... Bon, en même temps, quand on est fonctionnaire, c'est le seul statut auquel on avait droit à l'époque. Donc, j'avais pas trop le choix. Mais je pense que j'aurais accéléré un petit peu plus sur l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, ça fait longtemps que je sais que j'ai un profil entrepreneurial.
Oui, clairement, ouais.
Mais c'est pareil, c'est toujours cette peur de prendre des risques. Et puis aussi, moi, j'ai pas des exemples de ça autour de moi. C'est-à-dire que les gens qui sont autour de moi, bon, il y a des artistes, il y a un peu de tout, mais c'est beaucoup des employés. Donc, pour moi, c'était un peu un mythe. L'entrepreneur, je voyais que les gens qui avaient déjà réussi. Et je voyais pas, en fait, les gens qui ont tenté des choses, qui ont eu des échecs, et puis qui réessayent, qui recommencent, etc. Et c'est vrai que je pense que la Zaliata de 35 ans, un peu plus, qui a créé son auto-entreprise, je dirais... Oui, il fait peut-être ça un ou deux ans, mais développe le truc, parce qu'en fait, c'est fait pour toi, l'entrepreneuriat. Et maintenant, je sais ça, même si ça ne veut pas dire que demain, je ne serai pas employée pendant un certain temps, mais je sais qu'il me faut ce côté entrepreneurial et je l'assume beaucoup plus. Et aussi, grâce aux personnes que j'ai rencontrées chez Payfit, chez Glovo ou même dans d'autres endroits, je sais qu'en fait, ce n'est pas un truc... binaire de il faut absolument réussir, mais ça c'est aussi la mentalité entre guillemets de banlieue et de personne qui a pas beaucoup de fonds, c'est que moi j'ai pas de parachute, donc du coup tous les projets c'est il faut que ça réussisse parce que sinon c'est la catastrophe. Et finalement aujourd'hui je me dis c'est pas tant la catastrophe que ça, c'est-à-dire que moi je suis capable, si j'ai moins de revenus, on est capable de vivre avec moins, on est capable, enfin c'est pas obligatoire d'avoir toujours les bretelles, la ceinture, le parachute pour faire tous les projets. Je pense que voilà. Ça rejoint un peu ce qu'il y avait avant, mais là, c'est vraiment le risque entrepreneurial. Je dirais d'y aller.
Là-dessus, ouais, je trouve ça intéressant sur ce que tu dis sur le rapport à l'échec, en fait. Parce que c'est vrai que dans le milieu de la tech, le mode de fonctionnement des boîtes technologiques, c'est justement d'échouer le plus rapidement possible et de continuer à échouer jusqu'à ce qu'à bout d'un moment ça marche, en fait. Et du coup, c'est vrai que c'est d'un point de vue culturel, c'est quelque chose qui peut être, quand on vient pas de ce milieu-là ou qu'on n'a pas de personne autour de nous qui gravite autour de ce milieu-là, ça peut leur paraître bizarre de se dire mais attends, tu lances ton projet, tu me dis déjà il y a 80% de chances que tu vas cracher ta boîte et tu as le smile et tu vas à 200% dedans. Mais en fait, c'est parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et que, encore une fois, le risque est tout relatif, en fait. Toujours relatif. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu craches ton projet, tu réfléchis quand même aussi à comment tu vas le faire et que ça n'ait pas des conséquences non plus trop importantes d'un point de vue social ou d'un point de vue après pour toi et pour rebondir. Mais ça fait partie de la courbe d'apprentissage. Et du coup, d'y aller en se disant si jamais... et pas de se dire qu'il n'y a qu'une option qui est de réussir et qu'il y a aussi cette option-là qui est en fait d'apprendre. Plutôt que d'échouer, j'ai envie de dire d'apprendre, en fait. Et donc je trouve ça assez intéressant. Sur donc je sais pas si tu as d'autres encore en tout cas si tu en as d'autres des retours d'expérience, garde-les en tête. Moi je voudrais rebondir sur un petit point qui est sur le milieu de la tech du coup. Donc toi ta compréhension du milieu de la tech et surtout ce que tu qu'est-ce qui t'a surpris de manière positive en arrivant vraiment dans le milieu startup, t'es rentré dans le milieu de la tech par Orange France Télécom pendant 20 ans, donc je dirais plus de l'ingénierie. Ma question, elle est plus sur le monde plutôt startup, scale-up, French tech, que t'as du coup découvert, si je ne dis pas de bêtises, en rejoignant vraiment dans le dur Payfit, qui est une des des belles scale-up françaises. Qu'est-ce qui t'a agréablement surpris? Quelles sont les choses que tu penses pourraient être bénéfiques pour ce monde-là? Puisque moi, mon audience, elle est là-dedans aussi, qu'ils puissent aller regarder dans d'autres endroits et s'inspirer, tu vois, de choses que toi, tu as pu découvrir par la variété de ton parcours. Voilà, un peu avoir toi ton regard là-dessus, sur le monde, l'écosystème French Tech.
Alors, pour les personnes que je connais, et puis après, c'est vrai qu'à travers PayFit et à travers le fait d'avoir créé cette fonction DesignOps, moi, j'ai tout de suite connecté avec des DesignOps de différents endroits. Donc, Marie-Aline Mio, qui était chez Agicap et qui est maintenant chez Spendesk. Jérôme Benoît, de Doctolib. Laurent Pinjon, qui était chez Deezer. Enfin, voilà. Donc, on a commencé à créer un petit cercle comme ça de personnes qui échangeaient. Et c'est vrai que ça donne aussi une perspective sur comment ça fonctionne. Moi, ce qui m'a... Enfin, déjà, j'ai eu l'impression d'être chez moi. C'est-à-dire que Orange, c'est chez moi un peu comme sa famille, c'est chez soi. C'est-à-dire que je connais tout... les fonctionnements, les process, beaucoup de gens, un énorme réseau chez Orange et beaucoup de gens bien. C'est une entreprise, il y a plein de gens bien, des gens plein de bonne volonté, plein de bonnes intentions, etc. Mais j'ai toujours eu l'impression sur mes projets d'être à contre-courant, c'est-à-dire voilà, de faire du canoë à l'envers. Mais non, mais c'est par là qu'il faut aller et puis tout le monde va dans l'autre sens. Ce que j'ai découvert et vraiment qui m'a agréablement surprise chez PayFit, et dans les autres environnements, c'est j'avais l'impression d'être avec des gens qui pensaient comme moi. C'est-à-dire, ça fait un peu bizarre de dire ça parce que je suis pro de la diversité, hein. Mais ce que je veux dire par penser comme moi, c'est plus des gens qui sont prêts à se remettre en question. Ce que tu disais tout à l'heure, on essaye des choses, si ça rate, on essaye encore. Donc cet état d'esprit-là, cet état d'esprit où on essaye de faire des nouvelles choses, des nouveaux process, de s'adapter, pour moi, je me suis retrouvée comme un poisson dans l'eau. J'avais pas ce sentiment-là avant. L'autre chose qui m'a surprise, c'est que je m'attendais à trouver... moi, c'est la gentillesse des gens chez PayFit qui m'a marquée. Ça fait partie des valeurs, hein. Mais c'est vrai que entre les valeurs et ce qui est là réellement, il y a une différence. Donc c'est vrai que ces bonnes intentions là, des gens qui veulent vraiment travailler avec les autres, qui veulent vraiment faire avancer les choses, ça c'est assez chouette et quand même beaucoup moins politique que ce que j'ai pu connaître chez Orange. Donc ça c'est vrai que c'était quelque chose d'agréable. Par contre, il y a un côté qui est toujours quand même assez je vais essayer de trouver les bons mots parce que je ne veux pas non plus être péjorative, mais y a quand même de la peur finalement. Parce que je pense que c'est une fois que la boîte est devenue assez grosse, y a des choses qui sont plus difficiles à bouger que ce que je pensais. Je donne un exemple concret. En fait, quand Léa est partie en tant que VP Design, on a ouvert un poste pour la remplacer. Enfin, PayFit a ouvert un poste pour la remplacer. Et puis, dans le pipe, il n'y avait que des hommes blancs d'un certain âge. Et quand j'ai fait la remarque en disant « on ne peut pas essayer d'avoir d'autres types de personnes », ce qu'on m'a répondu, c'est « Ah, mais là, maintenant, on veut quelqu'un qui a de l'expérience et qui sera capable de porter l'équipe plus loin. » Oui, mais en fait, si on pense comme ça, on n'aura que ces personnes-là, en fait. Donc, ce n'est pas forcément ça qu'il faut aller chercher. C'est vraiment une attitude, une façon d'être, etc. Donc, ça, c'est vrai que ça m'a un peu décontenancée parce que je me disais, on reste quand même un peu toujours sur ces façons de penser où finalement, on va être quand même un peu dans l'entre-soi. Et c'est vrai que pour moi, ça m'a gênée parce que... moi, on m'a donné ma chance, donc c'est hyper chouette parce que je suis vraiment pas de l'entre-soi de gens qui ont fait des grandes écoles, etc. Et je me suis sentie tout de suite à l'aise, mais en même temps, je me suis rendu compte que quand il y avait des décisions importantes à prendre à ce stade-là, on revenait vers des choses qui étaient plus de l'entre-soi et plus de la sécurité, etc. Et ça, c'est vrai que ça m'a gênée. Et c'est là où je me suis dit aussi cette graine entrepreneuriale où je me suis dit. En fait, si tu veux faire les choses comme toi, tu veux, c'est ta boîte, en fait. C'est normal que que chez Payfit, on retombe dans un système parce que c'est leur système et ils essayent de faire au mieux avec ce qu'ils connaissent. Et franchement, honnêtement, je dis ça, mais c'est une boîte qui est hyper... ils veulent faire bien en termes de diversité, etc. Mais finalement, il y a des fois, dans le concret, on se rend compte que mais c'est difficile de faire avancer cette façon de penser, quoi.
Hyper, voilà. Hyper intéressant, merci du coup pour ce partage aussi positif et les choses à améliorer, très, très transparent, je trouve ça top et ça fait écho, je pense que, enfin moi ça fait écho avec des expériences, ça fera écho je pense à pas mal de personnes, donc c'est cool aussi. Est-ce que, donc avant d'aller vers la fin de l'échange, est-ce qu'il y avait d'autres donc, retours d'expérience, d'autres conseils à la Zeliata d'il y a quelques années que tu pourrais donner, donc là, parmi ceux que tu as déjà partagés?
Je pense que faire confiance à son intuition aussi, parce que je pense qu'il y a plein de fois où j'avais des intuitions et je ne les ai pas suivies. Donc faire confiance à son intuition, c'est quelque chose que je dirais si je pouvais. C'est que quand tu sens qu'il y a un truc, si tu as envie d'y aller, vas-y. Quand tu sens que ça ne le fait pas, le fais pas. Et quand tu sens que tu dois parler, parle. Ça aussi, c'est quelque chose que maintenant, j'arrive beaucoup mieux à faire. Mais ça m'a pris du temps. Parce que ouais, j'avais beaucoup... Mais c'est pareil, c'est aussi culturel. Hein, j'y réfléchissais tout à l'heure quand on parlait de cette peur de l'échec. Je pense que dans ce qu'on dit aux gens qui viennent de banlieue aujourd'hui, et moi, j'ai fait partie des parrains, nos quartiers ont du talent, par exemple, c'est la réussite, vous pouvez réussir, vous pouvez faire comme les autres, reprenez les codes des autres, etc. Et en fait, ça reste ancré, ça prend du temps à se désancrer, ce truc-là. C'est que la réussite, c'est pas que ceux qui vont à Sciences Po, etc., etc. C'est aussi ceux qui font un truc qui leur ressemble. c'est pas un problème de faire quelque chose qui ressemble pas au modèle des gens qui sont sortis de l'ESSEC ou un truc comme ça. Donc, on peut le faire, mais on peut aussi faire d'autres modèles. C'est aussi valable. Donc, je pense que ce truc-là, cette intuition que j'ai, qui en fait ne correspond qu'à moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, de l'écouter, en fait, parce que je ne suis pas obligée de reprendre les codes des autres, ni de faire les missions des autres pour être en réussite. Peut-être que j'aurai une vie complètement alternative à partir de maintenant, et ça sera très bien. Voilà.
Top, merci pour ce partage. Du coup, pour aller vers mes deux questions donc, de fin d'échange, donc, la première, c'est est-ce que tu as une conviction forte avec laquelle tu es en général en désaccord avec tes pairs?
Alors, je pense qu'il y en a deux. La première, c'est que les gens ont tous des bonnes intentions. Enfin, que les gens qui ont des mauvaises intentions sont une minorité et que souvent, quand il y a des gens qui font du mal, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes en souffrance. Donc, et pour moi, c'est radical. C'est-à-dire que je le pense tout le temps. Je pense tout le temps, quand je vois quelqu'un dans une réunion ou dans un contexte qui fait des choses qui peuvent heurter les autres, je pense que c'est souvent parce que la personne, elle est en déséquilibre, en souffrance. Donc moi, je suis persuadée que les gens, dans leur 99% des cas, 99,5% même, ont des bonnes intentions. Et qu'il suffit de s'aligner pour trouver... ce qui va coller dans les intentions des gens. Donc, je pense que ça, des fois, quand j'en discute avec des gens, les gens me disent « Ah, mais oui, mais tu vois, là, t'as les lunettes roses et tout. » Non, moi, c'est vraiment un truc humain. Je pense que s'il y a un désaccord ou s'il y a un déséquilibre, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Il y a un problème à régler, il y a quelque chose à faire sortir. Et donc, être dans cette tolérance, pour moi, c'est hyper important. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'on peut tout apprendre. Mais tout, tout, tout. C'est-à-dire que, voilà, c'est, même si là, aujourd'hui, j'ai envie de devenir médecin, par exemple, je pense que je peux prendre des études de médecine et devenir médecin. Ça me prendra 15 ans, mais c'est pas grave. Je pense que c'est tout à fait possible. Et des fois, quand je discute avec des gens, j'ai l'impression que, ah oui, mais telle personne, c'est pas... Ou t'es pas vraiment un designer si t'as pas fait ça, etc. Mais pour moi, c'est pas comme ça. C'est vraiment... les choses bougent tellement vite de toute façon qu'on peut tout apprendre à partir du moment où on a envie d'apprendre. Et que les métiers sont tellement tout le temps en train de bouger que de toute façon, il faut avoir envie d'apprendre si on a envie de bosser dans la tech. Donc pour moi, on peut tout apprendre, on peut faire tous les métiers.
Là-dessus, ouais, je te rejoins à 100%. À partir du moment où on a envie, pour moi, la limite n'est que celle que l'on se fixe, quoi. C'est propre. Parce qu'effectivement, je suis 200% sur le fait qu'on peut tout apprendre. De toute façon, c'est comme ça aujourd'hui. Dans le monde professionnel, ça bouge tellement vite que tu es obligé de... En particulier dans le monde de la tech, hein, dans lequel on évolue, tu es obligé de te former en continu. Sinon, tu es obsolète. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je pense que pour beaucoup d'entreprises, c'est plus important... en fonction, après tout dépend du niveau de seniorité des profils qu'on recherche, mais quand on cherche des profils juniors, même mid-level, c'est plus important à mon avis de regarder l'attitude des personnes que leurs hard skills qu'ils ont à l'instant T. Parce qu'une bonne attitude avec des hard skills qui sont un peu moyens va très très vite compenser une mauvaise attitude qui a des très bons hard skills. Et donc là-dessus, 200%. Donc pour aller sur ma dernière question, c'est quelles sont les choses qui te nourrissent, toi, intellectuellement ?
Alors, comme c'est le ramadan, j'ai envie de dire la spiritualité. la spiritualité, mais aussi la psychologie. En fait, pour moi, il y a quelque chose qui me nourrit, qui est la compréhension du monde. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis partie sur du design ops, parce que, en fait, le design ops, c'est une sorte de design systémique. Et donc, pour moi, comprendre les organisations et comprendre les fonctionnements des gens, c'est passionnant. Je trouve que j'en apprends tous les jours. Je lis beaucoup de livres sur la psychologie et aussi sur la spiritualité d'ailleurs. Les deux se rejoignent pour moi. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit et qui fait aussi que j'ai envie d'être quelqu'un de bien dans tous les aspects de ma vie, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie professionnelle. C'est aussi mon éthique qui vient aussi de là, je pense. Et puis, pour moi, vraiment, la musique, la danse, c'est un truc... En fait, je sais pas d'où ça vient, mais je sais que c'est quelque chose qui est en moi. Moi, je vois bien que quand j'ai un problème, quand il y a un truc que j'arrive pas à exprimer avec mon cerveau ou avec des mots, mon corps, il parle. Et moi, ça peut passer par la danse. Et je trouve que c'est un outil, pour moi, en tout cas, qui est très utile pour justement faire sortir des émotions, des réflexions, plein de choses. Voilà.
Top. Bah, merci encore pour ton temps et puis pour tout ce partage, Zaliata.
Merci à toi, Terry.
Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. À très bientôt sur Just Click, le podcast français du product management.